Vous êtes sur RTL.
En Peugeot.fr.
Et à 18h51, il est temps de retrouver le kiosque de RTL Soir.
Le kiosque de RTL Soir avec Catherine Boulet qui nous parle du monde, ça vous avez l'habitude. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Thomas.
Avec Christian Ménanteau, son truc à lui c'est les chiffres et l'économie. Bonsoir Christian.
Bonsoir Thomas.
Et ce soir c'est Laurent Marsic qui nous parle culture. Bonsoir et bienvenue Laurent.
Bonsoir tout le monde.
On va commencer par un petit voyage en Irlande avec vous Catherine. Tim Cook, le patron d'Apple, est à Dublin depuis 3 jours et on peut dire qu'il y est franchement bien accueilli.
Ouais, Tim Cook, il a eu le tapis rouge là. Il vient de recevoir à l'instant un prix des mains du jeune Premier ministre irlandais Leo Varadkar pour le remercier des 40 ans de présence d'Apple en Irlande et accessoirement pour les 6000 salariés qu'il fait vivre dans le pays. Tim Cook a donc salué l'Irlande, sa deuxième patrie.
C'est un peu surprenant parce que si je ne me trompe pas, ça n'a pas toujours été simple entre l'Irlande et Apple, non ?
Là, vous êtes en train de penser à l'amende de 13 milliards d'euros qu'Apple a dû payer il y a 2 ans. Il faut dire que la Commission européenne ne voyait pas d'un très bon œil les impôts très très bas payés par Apple à Dublin. C'est vrai que 0,005% en 2014, c'était pas très lourd. Sauf que ça peut paraître étrange, mais dans cette affaire d'amende, eh bien, Apple et l'Irlande ont toujours parlé d'une même voix contre la Commission européenne. D'ailleurs, tout à l'heure, Tim Cook a de nouveau appelé pour une refonte de la fiscalité européenne sur les GAFA, tout en se disant certain, sûr et certain, que l'OCDE allait trouver quelque chose.
Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un autre échec.
Il y a eu l'échec de ce gigantesque data center qui devait voir le jour dans la ville d'Athenry et qui a été abandonné. Mais bon, le 8 février prochain, il y a des élections en Irlande. Varadkar remet son poste en jeu. Donc, c'est le moment ou jamais de se montrer aux côtés de Tim Cook.
C'est une photo qui ressemble à une affiche électorale, évidemment. L'emballement des Français pour le camping ne se dément pas. Et là, je me tourne vers vous, Christian. Du coup, les initiatives se multiplient et il y en a quelques-unes qui sont un peu surprenantes.
Hein. Bah oui, un petit coup d'œil sur l'officiel de l'hôtellerie de plein air. Vous savez, c'est la bible de nos 8000 campings, montre bien sûr que ce secteur est en pleine ébullition avec, il faut le noter, une montée en gamme qui a dopé ses recettes, hein, 2,5 milliards l'an dernier, et que les clignotants sont tous au vert. Alors, ça donne de quoi aiguiser bien sûr les appétits et les imaginations, et c'est pour ça que je vous en parle ce soir, parce que à la une du kiosque, on va voir le dernier coup d'éclat en date, c'est la création du réseau Camping Car... Qu'est-ce que je vais dire là ?
Camping,
Camping Paradis.
Ouais, Camping Paradis. Comme la série, je parle sous le contrôle de Laurent Marsic, comme la série télé.
Camping Paradis. Voilà, c'est Laurent qui me contrôle là quand je parle de ça. C'est comme à la télé, les vacanciers pourront dès avril planter leur tente ou poser leur caravane dans un décor qui est très fortement inspiré par la série à grand succès de TF1. Et c'est une promesse marketing qui est forte. Hein. D'abord, nos vacanciers pourront se prendre l'espace d'un séjour pour des personnages de télévision. Le porche d'accueil, ce sera la réplique jaune et bleue de celle de la série. Les petites voiturettes électriques, elles sont identiques à celles des héros du feuilleton et le personnel, eh bien, il sera habillé de la même façon.
C'est un parc d'attractions, votre truc, là.
Ah, c'est pas tout. Hein, parce qu'on va aussi pouvoir en fin de soirée se déhancher sur l'air et la chorégraphie.
On dirait que ça vous a donné envie, Christian.
Pardon ?
Ça vous a donné envie ?
J'ai pensé à vous parce qu'à la fin, il y a la fiesta boum boum. Vous savez, cette fameuse chanson qui clôture chaque épisode de la série, hein, et vous pourrez même y acheter, Catherine, avant de quitter ce petit paradis, des souvenirs labellisés, camping paradis. Donc vous voyez
quel est l'intérêt de ce positionnement économiquement ?
Ben, Thomas, c'est la visibilité. Le marché du camping est aujourd'hui atomisé. Sur les 8000 sites que j'ai évoqués, il y en a 7000 qui sont des indépendants. Alors il faut capter, fidéliser une nouvelle clientèle. Pour ça, ils ont besoin d'être visibles, d'avoir une image, de faire masse. Et le succès de la série, il y a quand même 5 millions de fidèles tous les jours, son positionnement familial est une base solide et ce regroupement pourra évidemment compter sur la puissance de feu publicitaire de TF1 qui s'associe à ce nouveau réseau. Vous voyez, de quoi rêver de multiplier, Catherine, les fiesta boum boum.
Ah non, pitié, merci pour la fiesta boum boum. Laurent Marsic, sortez-nous de là, nous sommes des célébrités. Médiamétrie vient de publier une enquête annuelle baptisée Glens pour Global Audience Content Evolution, merci pour l'anglais. 7000 chaînes de télé observées dans plus de 120 territoires. D'abord, même si ce n'est pas totalement nouveau, les usages ont changé. On ne regarde plus la télé comme avant, Laurent.
Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, cette façon dont nous regardons la télé a changé. Poussé par les plateformes aujourd'hui, on avale des séries entières. Je sais que Christian en a parlé, me dit « j'avale des séries pendant toute une minuit. On picore ici ou là, on n'attend plus le sacro-saint rendez-vous de 21h pour se poser devant un programme. On pratique par exemple le replay. En 2019, sur les 3h40 de télé consommées dans les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, ouais, par jour, 10% des programmes étaient consommés en replay. Il y a un autre phénomène qui pointe son nez, au Royaume-Uni notamment, on appelle ça le preview. C'est Frédéric Volpré, le patron de cette enquête, qui nous raconte ça.
C'est le fait de voir un programme avant une diffusion live le jour J. Et ça amène une audience additionnelle de pratiquement 40% sur tous les programmes. Il y en a eu plus de 1200 au Royaume-Uni qui ont proposé ce prévisionnage.
Je crois que France 2 commence à le faire d'ailleurs, hein, ça. Des usages qui changent et des programmes qui la jouent plus intime aussi.
Ouais, alors ça, c'est une vraie tendance mondiale, l'intimité des stars. L'émission ici qu'on entend s'appelle Studio G, elle est diffusée au Québec. Le principe, une grande fiesta en plateau, champagne, cotillon, une star, mais on invite aussi sa famille, son ami, son ex-petite amie, ses enfants et on décortique sa vie. Ou encore Song of My Life en Finlande, comme la chanson secrète sur TF1, en explorant en musique la vie perso d'invités célèbres. Plus 50% d'audience sur les 25-44 ans pour cette chaîne finlandaise qu'ils diffusent. L'intime aussi, mais alors moins trash, parce qu'ils ont quand même l'habitude de faire des programmes un peu trash. On est aux Pays-Bas, sur RTL4, un programme qui s'appelle The Key, un animateur connu pour son engagement social, qui offre à des SDF dans la rue des clés d'appartement.
Ah oui.
Et on va les suivre pour voir s'ils réussissent à s'en sortir. C'est ce qu'on entend là. C'est ça cartonne aussi. Le jeu télé tient aussi, cartonne dans le monde. Si on faisait un mix entre C'est pas sorcier et Fort Boyard, ça donnerait cette émission que nous présente Cécile Bertrand, la responsable étude chez Glance Médiamétrie.
The Way Out, par exemple, en Belgique sur VTM, qui en fait est un escape game où on va être entre l'expérience scientifique et le challenge physique. Les invités vont être mis à l'épreuve aussi sur leur capacité à résoudre des énigmes. Là aussi, on est quand même dans une notion de l'amusement et festif important.
Oui, mais enfin, vous avez quand même eu la gentillesse de penser aux fictions télé, en parlant de moi tout à l'heure, mais elles sont où ?
Alors, justement, il y a deux grandes tendances. C'est pas hyper nouveau, mais on note de plus en plus de fictions basées sur des faits réels. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de TF1 qui va faire l'affaire Grégory. C'est quasiment du documentaire mis en fiction. On a une série qui s'appelle White House Farm au Royaume-Uni, retour sur l'assassinat de 5 membres d'une même famille en 85. Il y a 22 juillet en Norvège sur la tuerie perpétrée par Breivik. Et l'autre tendance de la fiction, c'est de la fiction de niche qui est en passe de devenir un gros succès d'audience. C'est par exemple Dracula sur la BBC qui vient de reprendre Netflix. Ou encore ceci, là on est sur TVN en Corée du Sud. C'est une série bourrée de fantômes. La chaîne TVN a multiplié par 3 son audience auprès des jeunes. Le fantastique arrive en masse dans les séries.
Et ben voilà pour ce que nous allons voir à la télé dans les mois et les années qui viennent. Moi, tant qu'il achète appartement ou maison sur M6, je suis heureux. Merci à tous les trois. Chez Storiste de France.